Bonsoir Christiane.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Bonsoir tout le monde. Eh bien, d'abord, je voudrais dire toute la sympathie et la tristesse que j'ai en écoutant l'auditrice précédente, Marie.
Marie,
je crois.
Oui. Je
n'avais même pas envisagé qu'il soit possible à un homme de demander cette espèce de fidélité post-mortem à sa femme.
C'est terrible. Hein.
Elle l'a raconté, donc c'est vrai, mais ça me paraît monstrueux. Enfin,
Ce qui est surtout monstrueux, vous avez raison, c'est le poids que ça met sur les épaules de celui qui reste, ou de celle qui reste en l'occurrence.
C'est effrayant, alors que la plupart des cas que j'ai connus, c'était plutôt l'inverse.
Sois heureuse, oui, bien sûr.
Voilà, moi je voulais témoigner de mon expérience qui est un peu triste ou nette concernant des gens dont j'ai été entourée et qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, qui est une grande cause dont on parle beaucoup.
On a quelqu'un qui est intervenu il y a deux ou trois émissions de cela, je crois qu'on avait longuement parlé de ça un soir.
Oui, c'est peut-être à cette occasion-là que... Alors moi je suis frappée parce que j'entends souvent que à la libre antenne, beaucoup de personnes témoignent justement de leurs difficultés. Et je suis très frappée du fait que très souvent, ce sont des femmes et des femmes seules qui sont en charge de personnes âgées. C'est vraiment effrayant. Alors moi, j'ai eu à connaître de nombreux cas, à commencer par moi il y a très longtemps où j'ai eu ma grand-mère à charge. On ne savait même pas à l'époque, moi je ne savais pas mettre un nom sur la maladie, c'était de la démence sénile.
On disait à l'époque mamie perd la boule, quoi.
Voilà, c'est ça.
Sans savoir exactement ce que c'était.
Et c'est après, quand j'ai lu les symptômes et que j'ai bien après sa mort que j'ai compris. Bon, j'étais seule avec deux petits-enfants et je l'avais en charge. Enfin bon, donc ça a été ma première entrée, si je puis dire, en contact. J'ai connu quelques cas. Et là, maintenant, comme je suis âgée, hélas, une succession de cas autour de moi. Et alors, récemment, j'en ai eu un de très, très, très proche. Ce n'est pas de ma famille, mais c'est des amis. Et j'ai vu combien, et je l'ai entendu à l'antenne, combien l'aidant, qui est souvent l'enfant, en l'occurrence, là, c'était l'épouse, peut se s'user, mais au-delà du tolérable. Et je crois qu'il faudrait répéter que, de toute façon, avec Alzheimer, un jour ou l'autre, il faudra envisager un placement. Je crois que là, il faut que les... Enfin, je sais combien c'est dur pour les gens, mais je crois que ce n'est pas envisageable de garder son parent jusqu'au bout.
Oui, bien sûr, mais vous avez entendu à quel point l'acceptation est difficile. C'est ce chemin-là qui est le plus douloureux au départ.
Ouais. Parce que c'est une espèce de mort blanche. Il faut commencer déjà par comprendre qu'on a perdu la personne, parce que elle est morte avant que son corps disparaisse. Enfin, c'est bon. Et je crois aussi que j'entends un peu trop souvent à l'antenne un peu diaboliser les EHPAD. Les EHPAD, c'est quand même la solution. On ne peut pas mettre sa famille, je pense aux enfants qui ont en charge des parents, on ne peut pas mettre sa propre famille, son couple, ses enfants en péril pour s'occuper de son parent. C'est pas possible. Enfin, c'est pas. Et bien sûr, c'est un choix personnel sur lequel.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est l'histoire de chacun. C'est difficile de faire des généralités. En théorie, je vous suis complètement. En pratique, il y a des gens pour qui c'est impossible, c'est trop dur.
Oui, mais je pense aussi que ce serait moins dur si les gens, si on avait une vue peut-être un peu plus, un peu plus fine de ce qui se passe en EHPAD.
C'est-à-dire plus fine?
Plus fine au sens où toutes les EHPAD ne sont pas des mouroirs affreux.
Oui.
Moi, j'ai connu, du temps de ma grand-mère, les mouroirs affreux. Oui, ça, moi, j'ai connu. Bon. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas maintenant, il y en a encore. Bon. Puis, il y a aussi tous les problèmes financiers qui sont, alors eux, extrêmement lourds et handicapants. Alors, moi, le témoignage précis que je voulais donner au cas où ça pourrait, je sais pas, donner un peu d'espoir à quelqu'un ou lui donner une idée. Le couple que je suivais, qui était, enfin que je suis toujours d'ailleurs, qui est des amis, mais extrêmement proches. On est partis encore ensemble à la neige au mois de janvier, juste avant le Covid. On est partis tous les trois. Ça s'est à peu près bien passé. Le monsieur arrivait, c'est le monsieur qui était handicapé. Il fallait le tenir en ce sens qu'il ne sortait pas tout seul, si vous voulez, parce qu'il serait perdu. Bon. Mmh. Mais enfin, on a réussi, pendant que sa femme allait faire du ski, nous, on se promenait sur les pistes, etc. Bon. Là-dessus, le Covid est arrivé. Bon, évidemment, alors là, le confinement complet, ça n'a pas arrangé les choses. Et ça s'est détérioré extrêmement vite. Et alors là est apparu ce qui, d'ailleurs, couvait avant, c'est des réactions d'angoisse. Et pourtant, sa femme était... Elle est plus jeune, lui, il a 75 ans, et elle en a 66. Elle était admirable avec lui, et il était bien entouré et tout. Mais il avait des réactions d'angoisse qui n'étaient absolument pas contrôlées.
Contrôlables aussi.
Hein. Absolument pas. Ouais. Et ce que j'ai noté, c'est quand elle a fini par le mettre en EHPAD parce qu'il voulait se sauver, parce qu'il se blessait en essayant de trafiquer la serrure pour se sauver, etc. Bon... Et ce que j'ai noté, c'est qu'en EHPAD, d'un seul coup, il s'est calmé.
Apaisé, oui.
Apaisé. Et pas, parce que, bon, quand j'ai vu la différence, j'en ai parlé avec les infirmières, j'ai dit, mais vous lui donnez des médicaments, parce que je pensais que...
Qu'elle l'avait assommé chimiquement, oui.
Oui, je pensais qu'il était... Mais non, il n'était pas assommé chimiquement, il était...
Cadré, peut-être. Oui, c'est ça.
Voilà, ouais. C'est ça, bon. Malheureusement, je reviendrai après sur le malheureusement, il a attrapé le Covid et il est décédé il y a 15 jours. Mmh. Et moi, je dis qu'il faut avoir le courage, bien que ce décès me touche très fort et sa femme aussi, il faut avoir le courage de dire que finalement, c'est bien comme ça, c'est un soulagement. Je comprends qu'on ne partit. Enfin, on ne dit pas assez, à mon avis. Enfin, je crois que les gens on n'arrive pas souvent à reconnaître, à admettre qu'une disparition provoque un soulagement. Et pourtant, c'est vrai. Et il faut l'admettre.
C'est toujours un mélange de plein de choses. Il y a forcément une part qui est soulagée de la souffrance qui s'arrête.
Oui.
Et une autre part qui est en souffrance parce qu'il y a un manque qui se crée.
Oui, mais déjà assumer le soulagement, c'est pas très facile, hein, c'est pas très. Alors attention, je parle de cas de gens qui sont atteints de maladies. Il est évidemment hors de question d'avoir un soulagement. Pour quelqu'un de jeune, etc. Bon, ça, c'est... Là, je comprends très bien. Mais quelqu'un qui souffre, par exemple. Mmh. Moi, j'ai vu ma mère souffrir à l'époque où il n'y avait pas de soins palliatifs, où il n'y avait rien du tout. Mais j'ai été soulagée quand elle est morte. Et bien sûr, sur le moment, on ne le reconnaît pas, mais je crois que le fait... Et c'est pour ça que je voulais en témoigner... C'est pour dire qu'on a le droit d'être soulagé. C'est ça que je voulais dire. Mmh. Même si il y a une souffrance, mais il y a aussi un soulagement. Enfin, je trouve que c'est... Il faut reconnaître l'ambiguïté de la situation, à mon avis.
Oui, tout à fait. Et je pense qu'on se culpabilise si on dit qu'on est soulagé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Ça ne se fait pas.
Voilà.
C'est pas normal.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on va dire de moi ?
Voilà, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Mmh. C'est ça.
Et moi, je suis indigne, je suis une femme indigne, une fille indigne.
Voilà. Voilà.
Ouais.
Voilà. Et enfin, moi, je sais que j'ai eu, enfin, mon père a mis fin à ses jours délibérément, mais pas du tout dans une perspective de dépression. Il a mis fin à ses jours parce qu'il trouvait qu'il commençait à pu aller bien. Il avait fait le tour de plein de choses. Bon. Eh bien, avec l'expérience préalable de ma mère qui avait terriblement souffert. Je reconnais, mais évidemment, j'ai pas été le dire aux proches, etc. Enfin, Mais j'ai accepté l'idée que j'étais soulagée en me disant au moins il aura eu une fin digne, sans souffrir beaucoup. Il avait fait preuve de courage et bah oui, on affronte ça. C'est tout ce regard sur la mort, sur la fin de vie. Bon, moi je suis très militante à l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Et il me semble que ce genre de témoignage peut, apaiser quelque chose.
Libérer quelques consciences, peut-être.
Oui, c'est ça, libérer quelques consciences. Mm-hmm. Et je sais que j'ai dit à son épouse à un moment, où elle m'a, enfin quelques jours après, je lui ai dit, bon, quelque part tu es soulagée. Ah, elle me dit oui. Mais j'ai vu qu'il y avait un soulagement à le reconnaître. Mm. Bien que ce soit très difficile et très pénible.
À pouvoir être entendu dans ce soulagement-là. Quoi.
Oui, mais ouais. Ça ne peut être dit qu'avec des intimes, ça ne peut être dit que de façon très... c'est du domaine de l'intime. Mais en même temps, je trouve que c'est important aussi de l'entendre. D'ailleurs, la dame, enfin Marie avant moi, là, le disait bien aussi qu'elle a éprouvé du soulagement quand on voit les gens souffrir. C'est quand même, faut bien reconnaître que ils sont mieux quand ils sont plus là. Quoi. Mmh. Voilà, c'était ce dont je voulais vous parler ce soir. Et puis moi, je souhaite vivement qu'un jour nous puissions avoir accès légalement à une libre fin de vie, sans douleur, sans souffrance, sans paisible, et que l'euthanasie nous soit offerte pour ceux qui le veulent. Pas imposée, jamais, bien sûr, mais offerte. Voilà, c'est mon sentiment. Voilà.
Merci Christiane d'être venue partager ce point de vue, évidemment très intéressant avec nous.
Voilà. Est-ce que je peux vous donner, puisque vous demandiez qu'on donne des témoignages du compliment qui vous a fait le plus plaisir.
Avec plaisir, allez-y.
Je voulais que je vous en donne un. Ouais. Alors, je suis désolée parce que ça va paraître éminemment prétentieux. Bon, mais enfin, bon.
On s'en fiche, allez-y.
On s'en fiche. Bon. Alors, c'était il y a très longtemps, il y a 40 ans, j'étais beaucoup plus jeune. Je faisais une conférence devant une école japonaise, et le japonais qui faisait l'interprète m'a fait ce compliment, m'a dit « Ah, madame, quand je vous ai vue, j'ai compris que vous sortiez d'une école de mannequins. Mais en vous entendant, je me suis souvenu que vous aviez été élève à la Sorbonne. »
Ce qui est bien plus agréable d'ailleurs comme compliment que le premier, je trouve.
Est-ce que c'est pas le plus joli compliment de la Terre ?
C'est très joli. Et il y a Romane qui nous envoie un petit mot en disant que elle, ce qui l'a marqué, c'est le jour où quelqu'un lui a dit « Vous avez des yeux magnifiques », mais elle précise « Je l'ai cru parce que ça venait d'une femme ». Ça m'a fait sourire.
Ah ben, on a dit un jour à ma fille, un de ses élèves a dit à ma fille « Oh madame, comme vous avez de beaux yeux, comme un Youski ».
Le compliment, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, la comparaison à son toutou. Merci Christiane de votre appel, c'était voilà. Très, très sympathique et très intéressant. Je vous embrasse.
Au revoir. Bonsoir à tout le monde, au revoir.